Alors, c'est un grand privilège, n'est-ce pas, d'ouvrir la parole de Dieu, de nous mettre à l'écoute de ce que Dieu dit. Et donc, Paul nous a déjà averti que les paroles, c'est quelque chose de super, super important, en fait. Pour Dieu aussi, comme pour nous dans notre quotidien. Et le problème, c'est qu'on a peut-être tendance, des fois, à oublier le poids et l'importance de nos paroles. Et peut-être Jacques, justement, le demi-frère de Jésus, vous vous rappelez ? Je dis demi-frère parce que vous connaissez la naissance miraculeuse de Jésus, mais ils avaient la même maman. Marie, après, avec Joseph, a eu d'autres frères, d'autres sœurs. C'est mentionné dans la Bible. Et Jacques, dont on est en train de lire la lettre, est un frère de Jésus. Il a vécu, donc ils étaient tout petits, comme on vient de voir ceux qui sont sortis là pour le groupe d'école du dimanche. Tout petits ensemble, ils ont joué dans la cour de la maison, ils ont joué dans la campagne environnante de Nazareth ensemble. Il a vécu, il a grandi à ses côtés. Est-ce qu'il y a eu des disputes dans la famille de Jésus? Des rivalités entre frères? Probablement. On a un petit aperçu de ça quand ils sont plus grands même. C'est le moment d'aller à Jérusalem pour la fête, et il y a les frères de Jésus qui disent, bah voilà, maintenant c'est le moment, tu devrais, puisque tu te crois si malin, tu devrais te révéler, vas-y. Et Jésus répond à ses frères, c'est pas le moment encore. Allez-y, moi je vous rejoins. Il y avait des disputes, il y avait des tensions. À un autre moment dans les évangiles, on voit la famille de Jésus qui est un petit peu gênée vis-à-vis des voisins parce que Jésus il dit des choses un peu radicales, il est en train d'énerver les pharisiens, les gens religieux, et donc il toque à la porte alors qu'il est en train d'enseigner, et Jésus vient, écoute, on va te mettre un peu à l'écart parce que franchement tu nous gênes maintenant. Il y avait des tensions comme ça, et maintenant Jacques réalise que Jésus, lui, n'a jamais dit une parole de travers pour poignarder, pour casser l'autre. Il se rend compte, lui, maintenant, que en tant que frère, demi-frère de Jésus, à chaque fois qu'il y a eu une dispute, c'était sa parole à lui qui était mauvaise, qui était méchante, qui était cassante. Et donc, quand il va nous parler maintenant, et qu'on va l'écouter, n'est-ce pas, on sait qu'il est en train de parler de quelqu'un qui a l'expérience, comme nous, qu'il est très difficile de maîtriser sa langue. La famille, c'est le lieu où sans doute le plus de paroles sont échangées. Des paroles personnelles, je veux dire. Pour construire ou pour détruire. De même, l'église, comme une grande famille, c'est aussi le lieu où on échange beaucoup de paroles. Parfois pour construire, gloire à Dieu. Parfois pour détruire. Je ne sais pas dans quel contexte vous avez grandi. Si vous avez reçu sans cesse des encouragements, des paroles qui vous portaient, ou si vous avez entendu ce genre de phrase, t'es nul, vraiment nul. Alors Jacques, il veut nous encourager en tout cas. Il veut nous construire, il veut nous édifier avec ce qu'il a écrit sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Et on retrouve le « mes frères, mes sœurs » affectueux qu'on a déjà rencontré plusieurs fois dans l'Épître. C'est comme ça qu'il s'approche de nous. C'est comme ça que je veux aussi vous parler ce matin. Et comme on l'a déjà vu, Jacques ne passe pas par quatre chemins pour nous mettre à découvert l'état réel de notre cœur. Donc tout avec la douceur qu'il a, il est aussi très franc. Et il veut révéler l'état réel de notre cœur, mais aussi le secours qu'on peut trouver en Christ. Et tout ça pour nous amener à la maturité spirituelle. C'est ce que je vous invite à lire maintenant avec moi dans Jacques, au chapitre 3 donc, et au verset 1. Jacques au chapitre 3, le verset 1, on va lire jusqu'à verset 12. Ne soyez pas nombreux à devenir des maîtres, mes frères. Vous le savez, nous recevrons un jugement plus sévère. Nous trébuchons tous à maintes reprises. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les bateaux, si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux. Ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré des décisions du pilote. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place dans notre corps. Elle tache tout le corps et elle embrase tout le corps, tout le cours de l'existence, étant elle-même embrasée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau incontrôlable. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons celui qui est le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les humains qui sont à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice l'eau douce et l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Prions. L'apôtre Paul a dit ça. C'est lui, Jésus, que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Père céleste, je voudrais faire le même travail que Paul ce matin, que ton apôtre, avec la même puissance de ton esprit, pour instruire en toute sagesse, avec fidélité, Seigneur, selon les paroles que tu nous as laissées dans cette lettre de Jacques. Seigneur, viens à mon secours, viens à notre secours, pour entendre ta parole, pour être changé par elle, et pour repartir d'ici avec des paroles de louange pour Jésus-Christ qui nous sauve, avec des paroles de grâce pour encourager, construire nos frères, nos sœurs, avec des paroles de vérité pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle du salut en Jésus. Seigneur, bénis-nous ce matin et bénis ce qui se passe de l'autre côté du mur aussi avec les enfants qui reçoivent aussi ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Il y aura trois parties dans ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Versets 1 et 2, l'objectif poursuivi, vous l'avez vu dans tout le verset, mais l'objectif c'est la maturité en Christ. Et on relit juste les versets 1 et 2. « Ne soyez pas nombreux à devenir des maîtres, mes frères. Vous le savez, nous recevrons un jugement plus sévère. Nous trébuchons tous à maintes reprises. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » C'est ça, n'est-ce pas, que nous désirons, être maître de nous-mêmes pour que tout dans notre être, notre corps, nos émotions, notre intellect, tout ce qui fait l'être humain, ce soit dirigé pour la gloire de Dieu. Sans partage, sans division, ça c'est le grand message de Jacques. Et la thèse principale, le point principal de Jacques pour tout ce passage, c'est que la maturité spirituelle, ça passe aussi, ça va se voir aussi dans notre utilisation de la langue. Et vous commencez à voir quel est le lien alors avec ce qu'on a vu la semaine dernière. Nos œuvres témoignent, attestent de l'authenticité et de la présence d'une foi réelle, vivante, qui est dans notre cœur par la puissance de Christ et du Saint-Esprit, la volonté de Dieu. Et une des œuvres que nous pouvons faire, c'est d'utiliser notre langue pour la gloire de Dieu. Et notre usage, donc, des paroles, du langage, va révéler notre maturité. Nos mots sont une œuvre qui découle ou non de la foi. Dieu veut que nous soyons parfaits dans ce domaine aussi, non partagé, dans notre utilisation de la langue et de nos paroles. Et Jacques, il dit « nous trébuchons ». Si vous voulez, dans le chapitre 2, il a déjà utilisé ce terme-là pour dire « transgresser la loi ». C'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire pécher, c'est-à-dire faire le mal, faire ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Nous trébuchons par nos paroles, par nos mots, par nos discours, de bien des manières. Nos paroles orales, nos emails, nos lettres, les choses qu'on écrit ou qu'on dit. C'est le cas pour tous, pour nous tous ici ce matin, moi compris. Si nous ne reconnaissons pas ce péché, dans les termes de l'apôtre Jean, nous faisons Dieu menteur. En fait, c'est pas trop vrai la surprise que nous péchons. C'est pas ça qui est la surprise. La surprise, peut-être pour nous ce matin, c'est que ce soit dans le discours, dans notre utilisation de nos paroles. Là où peut-être on n'attendait pas, parce que c'est devenu peut-être un péché acceptable. Ah, les paroles. Ouais, écoute, j'ai dit ça un peu vite, quoi. Désolé, quoi. Mais c'est pas si grave que ça, non? Les paroles s'en vont, les écrits restent, on dit. Mais en fait, les paroles ne s'envolent pas si facilement quand elles sont chargées du péché. Au contraire, elles tendent à peser lourd dans le cœur de la personne visée ou dans notre propre cœur quand on les a entendues. Elles produisent de l'amertume. Elles produisent une complaisance avec le péché. On tolère des pensées sur lesquelles on met des mots pour mieux les retenir et nourrir toutes sortes de mauvais désirs en nous, jusqu'à aller à réorienter notre perception des choses, réorienter la perception d'une réalité sur une personne. Ah, ce frère-là, j'ai entendu que, là là, sur un événement. Vous avez déjà fait l'expérience des paroles dures qui pèsent lourd. Les paroles s'envolent, non. En fait, elles ont un poids immense dans notre vie, de tous les jours, dans le quotidien de notre vie. Et Jacques nous dit, si quelqu'un ne pêche pas par son discours, par ses paroles, il fait preuve d'une grande maîtrise de soi. Un homme parfait, un homme mûr, une femme accomplie, finie, à qui il ne manque rien. C'est le but de Jacques, on l'a déjà vu, chapitre 1, verset 4, chapitre 1, verset 17, chapitre 1, verset 25. C'est le but de notre vie, de devenir parfait par le don parfait de Dieu, la loi parfaite de Dieu. Alors Jacques avertit, visons la maturité, ne soyons pas nombreux à devenir des maîtres, des enseignants. Mais visons tous la maturité. Pour ceux qui désirent devenir maîtres ou enseignants, attention, on va être jugé plus sévèrement. Parce que on enseigne dans l'église. Et donc ça concerne tous ceux, par exemple, pour notre situation ici à Cavaillon, qui ont en charge la présidence, la prédication, le ministère auprès des enfants. Ça nous touche tous parce que d'une certaine manière, comme on l'a déjà lu dans Éphésiens, on est tous appelés à construire l'autre par nos paroles, des paroles pleines de la vérité de l'évangile, pleines de la grâce et de l'amour de l'évangile. Mais c'est vrai, tout premièrement, Jacques, il est en train de dire, attention, vous qui avez un rôle sur le devant, pour conduire l'église par vos paroles, dans la présidence, dans la prédication, dans le ministère, auprès des enfants. Attention, soyez pas trop présomptueux, soyez pas trop rapide à vouloir devenir des maîtres et des enseignants. Et j'en prends pour moi-même, pour mon grade, en premier lieu. Et la première application que je voudrais vous demander de faire, c'est de prier souvent, de prier sans cesse pour les personnes concernées, pour ce qui se passe ici, chaque fois que quelqu'un vient au micro en train de diriger l'assemblée par la parole de Dieu, qu'il le fasse fidèlement, qu'il le fasse avec conviction, qu'il le fasse en étant cohérent dans sa vie par rapport à ce qu'il enseigne. Je voudrais aussi dire, c'est aussi le cas si nous sommes parents. J'espère pas trop tirer ce que Jacques est en train de dire ici, mais avec ce qui se passe dans nos maisons. Papa ou maman, père ou mère, selon l'injonction de la Bible elle-même, dans Deutéronome 6, 4 à 7 ou Éphésiens 5, nous avons un rôle d'enseigner nos enfants. Prenons à cœur ce rôle. Utilisons ces paroles-là avec maturité. Cherchons la maturité dans notre discours, dans notre enseignement vis-à-vis de nos enfants. Quand il dit « ne soyons pas nombreux à devenir des maîtres ou des enseignants », il n'est pas en train de dire « en fait, cherchons pas du tout ça ». Au contraire, il essaie de nous encourager. Nous trébuchons tous à maintes reprises, et on va y revenir. Mais si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et c'est ça qu'on veut viser, c'est ça qu'on cherche. Et moi, avec Jacques ce matin, je vous encourage à ça, dans le rôle que Dieu vous a donné. Alors, il vient de nous dire ça, Jacques, que le but premier, l'objectif, c'est la maturité en Christ. Ça passe par notre emploi de la langue, du langage. Et au verset 3 à 5, alors, la deuxième partie, on voit que c'est... Il est en train de dire, c'est puissant comme instrument, la langue, le langage. Un petit instrument aux grands effets. Il utilise des images. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Le mort, c'est la partie en métal auquel sont attachées les rênes en cuir. Et donc, si on tire à droite, le cheval va tourner à droite, il est censé faire ça en tout cas. Si on tire à gauche, il va partir à gauche. Et les bons cavaliers sont ceux qui savent utiliser ce tout petit instrument par les lanières pour conduire leur cheval. Pour pas que ce soit un cheval fou, un cheval sauvage qui va à l'aventure. Voyez encore, dit-il, verset 4, encore les bateaux si grands qu'ils soient, et poussés par des vents impétueux, ou des moteurs puissants aujourd'hui, pour les grands transatlantiques, les bateaux de croisière, le Costa Brava, n'est-ce pas ? Immense bateau, vous avez vu ces images-là. Et quand il n'est pas dirigé, pas bien dirigé, qu'est-ce qui arrive ? Le désastre, désastre économique, et désastre en vie humaine même. Regardez ces grands bateaux, ces grands transatlantiques, ces bateaux de croisière. Ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré des décisions du pilote. Il y a deux choses qui comptent. Alors, il faut un pilote et ce petit gouvernail qu'on aurait tendance à mépriser, à oublier. Et Jacques nous dit, verset 5, de même, la langue est une petite partie du corps. Petite, proportionnellement. Mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Un petit bout de nous aux grands effets. Les illustrations de Jacques sont faciles à comprendre. Maîtriser sa langue, c'est être capable de maîtriser son corps, de tenir tout son corps en bride, tenir le corps entier des chevaux, tenir un bateau entier sur un cap. La langue, donc, c'est un peu comme le volant de ta vie. Le guidon de ton vélo, vaut mieux le tenir, sinon tu risques de tomber. En fait, j'ai un souvenir assez douloureux de ça quand j'étais enfant. Dans le quartier, je me rappelle très bien d'un jour où je m'amusais à faire des tours dans le quartier. On avait la chance d'habiter dans un quartier où il n'y avait pas trop de circulation, on avait un peu la route pour nous-mêmes, donc j'étais tout content, tout fier de faire du sans les mains, et j'ai failli finir sans les dents. J'ai roulé le banc dans mes cheveux, voilà, c'était magnifique. Et tout d'un coup, sans que je sache comment c'est arrivé, la roue de devant s'est mise complètement de travers. Et l'instant d'après, sans que j'y réalise, j'étais par terre, les genoux en sang, avec des bleus, des coups. Je me rappelle qu'une dame est venue à mon secours, elle est venue pour m'aider à me relever. Et je suis rentré tout penaud, tout dépité, tout meurtri chez moi. La langue, c'est un peu comme ton guidon. Tiens-le, tiens-la, sinon tu vas tomber, tu vas faire mal, tu risques de faire du mal à d'autres. Et de nouveau, on réalise la maîtrise de soi, c'est un don de l'esprit, n'est-ce pas ? On avait vu ça avant, la douceur, c'est un don de l'esprit. Ici, dans Galates 5, 23, le fruit de l'esprit va produire la maîtrise de soi. Et c'est ça qui est important pour nous, de ne plus utiliser notre corps pour le mettre au service de l'injustice. N'utilisons plus notre corps, aucune partie de notre corps, pour être au service de l'injustice. C'est Paul qui dit ça dans Romains 6. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Que le péché n'exerce donc plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. C'est puissant ce qu'il est en train de dire, Paul. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Ça concerne aussi la langue, nous dit Jacques. Mais puisque vous étiez morts et que vous êtes maintenant vivants, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres, la langue y compris, nous dit Jacques, à disposition de Dieu comme des armes. Mais cette fois-ci, au service du bien. Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Mais quoi ? Allons-nous encore pécher, sous prétexte que nous ne sommes pas sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce ? Loin de là, nous dit Jacques, nous dit Paul. Et donc ne négligeons pas la manière dont nous allons utiliser la langue, notre langage, notre manière d'écrire des emails, des lettres, comme si c'était peu de choses. Et un peu plus loin, toujours dans Romains 6, Paul dit « De même que vous avez offert autrefois vos membres en esclaves à des passions dégradantes et immorales pour vivre une vie déréglée, De même, offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour mener une vie sainte. On a assez utilisé nos yeux pour convoiter et désirer et nos mains pour voler. On a assez utilisé nos yeux pour convoiter, désirer et utiliser nos organes génitaux pour satisfaire nos passions. On a assez utilisé nos yeux pour convoiter, désirer et utiliser nos mains et notre bouche pour fumer, pour boire à l'excès, pour manger avec excès ou refuser de manger sans reconnaître les bonnes choses que Dieu nous donnait. On a assez utilisé notre langue pour dire des paroles venimeuses. Et il aurait pu arrêter ces illustrations-là à ce point-là. Mais il utilise encore une toute petite illustration en disant « Voyez comme un feu peut embraser une grande forêt. » Il aurait pu utiliser une autre illustration en disant « Regardez comme une petite hache peut abattre un arbre. » Et si on met du temps, on va faire des choses. Une petite hache peut abattre un grand arbre. Il aurait pu rester dans cette comparaison-là, mais il utilise l'image du feu. Un feu, c'est quelque chose qu'on démarre, mais après, il n'y a plus de contrôle. Regardez les incendies qui ont eu lieu en Californie. Regardez les incendies qui ont eu lieu même ici, en France, je crois, pendant l'été. Les pompiers, c'est pas simple pour eux, ce job. C'est pas facile de maîtriser un feu, de l'arrêter. Il y a des moyens considérables qui sont déployés par les pompiers pour arrêter un feu de forêt. Et Jacques nous dit, verset 6, alors, « La langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place dans notre corps, mais elle tache tout le corps et elle embrase tout le cours de l'existence, étant elle-même embrasée par la géhenne. » La langue, notre utilisation des mots, de nos discours, de nos paroles, tache, malheureusement, à cause du péché, du fait que le pilote est mauvais, que le cœur, d'où sortent les paroles, est mauvais. Alors, le gouvernail nous emmène dans des mauvaises directions. Elle tache tout le corps, elle embrase, nous dit Jacques, le cours de l'existence. Rappelez-vous, il y a deux conséquences toujours au péché. D'abord, ça fait mal directement, soit à soi-même, soit à la personne qu'on offense. La personne est blessée. La personne est trahie, la personne est cassée. Et le deuxième effet que ça produit, c'est que ça pollue. Ça pollue l'atmosphère, ça pollue l'ambiance, ça pollue la terre. Carrément, nous dit la Bible, la terre est souillée à cause des meurtres, par exemple. Nous lisons ça. Ça crée de l'amertume, ça crée un manque de confiance entre les gens. Dans la communauté humaine, le péché va détériorer de plus en plus les relations. Ça va créer, oui, manque de confiance, j'ai dit la jalousie, de l'amertume. Et si vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, un sacrifice devait être offert pour le péché, une mort à la place d'une autre. Et ça, c'était pour régler la question de la culpabilité, mais c'était pas tout. Quand l'agneau avait été sacrifié, ou le taureau, ou la bête, ensuite, le prêtre prenait le sang et il fallait qu'il fasse la purification des péchés à l'intérieur du temple. Le sang de la victime était utilisé pour purifier. Voyez les deux conséquences et les deux remèdes de Dieu. Parfois, malheureusement, on lit même qu'un traitement plus radical pour celui qui péchait et souillait la terre était requis par Dieu. C'était la mort, tout simplement. On lisait ça dans Deutéronome 21, ou chapitre 22, ou chapitre 24. À plusieurs reprises, Dieu dit « Ainsi vous ferez disparaître du milieu de vous la souillure qu'entraîne le mal, la pollution. » Dans Psaume 106, verset 38, on lit ceci. « Ils ont répandu le sang innocent, le sang de leur fils, le sang de leur fille, immolé au faux dieu de Canaan. Et le pays fut souillé par ces meurtres. » Lisez dans Jérémie, dans Ézéchiel, la même chose. Si un fruit est pourri, ça ne sert plus à rien d'attendre qu'il mûrisse, n'est-ce pas? Donc si vous avez acheté une poire cette semaine, et que vous vous rendez compte qu'elle est déjà gâtée, vous n'avez pas eu le temps de la manger, ça sert à rien de la remettre, de dire je vais la remettre au frigo de quelques jours et après demain je la mangerai, elle sera devenue bonne. Non. Elle sera meilleure. C'est impossible de faire ça. Quand on a bricolé, qu'on a essuyé avec un torchon, parfois c'est pas la peine de le mettre à la lessive, d'accord ? C'est tellement plein de graisse, de crasse que vaut mieux le jeter. Il n'y a plus rien de bon à faire avec ça. Dans l'Ancien Testament, il y avait certains péchés qui, la seule manière d'éradiquer, c'était la mort même du pécheur, sans substitut possible. Waouh ! Et nous commençons à réaliser qu'est-ce que nous sommes heureux de connaître Christ maintenant. Qu'est-ce que nous sommes heureux de voir la grâce qui nous a été manifestée en Jésus-Christ. Quelle grâce de savoir que nous vivons dans la nouvelle alliance maintenant. Regardons dans cette partie, il y a une espérance pour nous. Jacques l'a déjà dit, nous trébuchons tous. Et Jacques, il nous dit, notre langue est un monde. La question est, est-ce qu'elle fait partie de l'ancien monde ou du nouveau ? Est-ce qu'elle fait partie de l'ancienne création, encore marquée, encore souillée par le péché, ou est-ce qu'elle fait partie de la nouvelle création ? Et quand on y pense, on voit tout d'un coup tous les liens qu'il y a avec l'Évangile, avec l'histoire de l'humanité dans ce passage. Et c'est vertigineux, franchement, quand j'ai pris du temps pour réfléchir à ce passage et regarder, je me suis dit, mais c'est dingue, comme tout Jacques est imprégné de l'ensemble de l'Écriture. Et je crois qu'il y a plusieurs références ici à Genèse en particulier, juste les quatre premiers chapitres de la Bible. Imaginez juste la thématique de la parole, Jésus-Christ, la parole de Dieu. Combien il y a de passages qui nous parlent de l'importance de Dieu qui nous parle, combien ça nous parle de l'importance de nos paroles dans les proverbes. Alors que nous, on est toujours prêt à minimiser. On est toujours prêt à minimiser l'usage de notre discours, de notre langage. D'ailleurs, c'est la marque même du diable, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il aime faire ? La première chose qu'il aime faire, le diable, c'est minimiser les choses. Oh, t'inquiète pas, c'est pas si grave que ça. Tu vas t'en sortir toi-même. Dieu verra pas. Franchement, il va pas tenir compte de ça. Et quand on a accepté avec lui de minimiser notre propre péché, c'est là que, comme un traître, il revient dans notre dos pour nous poignarder, pour nous accuser, pour dire « Ah bon, t'as refait ça ?» Oh, oh, maintenant tu vas voir, tu vas devoir payer pour ça. C'est l'accusateur, le traître. Et il nous fait de telle manière que pour nous pousser à rentrer dans nos propres mauvais mécanismes de défense, dans lequel, face à ses accusations à lui, nous allons tout faire pour essayer de minimiser, pour soulager notre confiance, notre conscience, pardon. Nous allons faire tout pour minimiser alors nous-mêmes notre propre péché. Et dès que nous pouvons, nous allons porter des accusations vis-à-vis de notre prochain. Voyez comme c'est pervers. J'espère que vous êtes en train de suivre ce que je suis en train de dire ici. Le diable, son premier truc, c'est il minimise pour nous-mêmes. Puis après, le coup d'après, il revient comme un traître dans nos dos, nous poignarder d'accusations sans cesse. Et il veut faire ça pour que nous-mêmes on rentre dans son propre jeu, qu'on minimise à nos propres yeux notre propre péché pour pouvoir mieux poignarder et accuser les autres pour soulager notre conscience. Si les autres sont pires que nous, je m'élève, alors je vais peut-être m'en sortir. C'est l'exact opposé de ce qu'il faut faire. L'exact opposé de ce qu'il faut faire. Il ne faut pas minimiser le péché, même pas nos paroles. C'est un feu qui embrase tout. Et au lieu de se justifier et de calmer notre conscience par des excuses et des explications bidons, nous devrions confesser plutôt notre péché devant Dieu. C'est le seul moyen de faire taire l'accusateur, le diable, qui nous poursuit de ses paroles pleines de venin. Regardez ce qui se passe en Genèse 1 à 3. C'est pas Dieu parle et puis le diable vient pour minimiser la parole de Dieu, pour minimiser les conséquences de désobéir à la parole de Dieu. Et quand Adam, Ève ont mangé le fruit, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se sentent repris, ils se cachent, Ils sont accusés dans leur conscience par le malin, par leur propre conscience, et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils assassinent l'autre. Ah, mais c'est pas moi, c'est lui. C'est sa faute à lui, c'est sa faute à elle. Regardez chapitre 4, jusqu'où ça mène. Ils se parlent, n'est-ce pas, Abel et Caïn, dans la campagne, et l'instant d'après, Caïn tue son frère. Il tue celui qui est à l'image de Dieu. Et quand on fait ça, c'est comme vouloir tuer Dieu lui-même, n'est-ce pas? C'est pas une petite chose, mes frères et sœurs, la manière dont tu utilises notre langue. On est alors au bord d'une falaise. Je sais pas comment vous vous sentez là maintenant. Quand je préparais ça, j'étais comme au bord de la falaise. Ça donne le vertige. Quand on réalise à quel point notre usage de la langue est à ce point lié à notre véritable nature. On voit tout au long de l'histoire de l'humanité les dégâts de la langue, des paroles, des mots écrits ou prononcés. Matthieu nous rapporte des paroles de Jésus qui dit « L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor et l'homme mauvais tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. » Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. On est au bord du gouffre, nous trébuchons tous, et nous le savons. Que faire? Ce qu'on doit faire, confessons nos péchés, regardez à Christ. Je voudrais lire un petit passage avec vous dans Ésaïe 50. Ésaïe 50, un des chants du serviteur, un autre que celui que Paul a lu ce matin. Au verset 4, Dieu annonce qu'il va envoyer quelqu'un avec des bonnes paroles pour guérir. Et ça fait référence bien sûr à Jésus, notre Seigneur. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par une parole celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas rebellé, je ne suis pas dérobé. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne me suis pas détourné des insultes et des crachats. Mais le Seigneur Dieu m'a secouru. Nous regardons à Christ qui a accepté de fermer sa bouche quand il était insulté. Nous regardons à Christ qui a été le disciple parfait, le fils parfait de Dieu quand nous étions imparfaits, qui a voulu acquérir le langage des disciples, de ceux qui parlent à la ressemblance de Dieu et qui a apporté des paroles de réconfort à ceux qui étaient épuisés, découragés parce qu'ils avaient entendu que des paroles d'accusation. Nous regardons un Christ devant qui un jour tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Regardez juste l'incroyable changement entre Genèse 1 à 3 et ce que nous lisons dans l'Apocalypse, le peuple racheté devant le trône de Dieu, en train de se prosterner devant l'agneau immolé, et chanter et prononcer la gloire et la beauté de ce Dieu-là, par des paroles, pas en mime, d'accord? Dans le ciel, toutes les langues du monde seront représentées, et chacun dans sa langue dira la gloire et la merveille de Dieu. Le chant des rachetés sera magnifique, en train d'utiliser leur langue pour s'exhorter les uns les autres et dire la vérité sur Dieu, dire la vérité sur la grâce qu'il a manifestée, à célébrer et magnifier son amour. Si nous voulons changer, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de regarder à Christ, et alors nous pourrons expérimenter de ne plus être divisés. Je voudrais relire avec vous le verset 9, jusqu'à la fin du passage qui nous intéresse ce matin. Par la bouche, par notre langage, par nos mots, nous bénissons celui qui est Seigneur et Père. Et par elle, nous maudissons les humains qui sont à la ressemblance de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice, l'eau douce et l'eau amère? Mes frères, un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Ce matin, tu réalises que la source est corrompue, polluée. Parce que tu ne connais pas Christ, comment pourrait-il en être autrement? L'invitation claire et nette, c'est que ce n'est pas de réformer ton comportement, c'est pas d'apprendre en étant dans l'église à imiter un comportement extérieur. Dieu n'est pas intéressé par les façades. Dieu veut faire bien plus puissamment que ça. Il veut changer la source d'où jaillissent toutes nos paroles. Et il veut le faire quand on vient à Christ, qu'on confesse notre péché et qu'on cherche son secours, sa vie nouvelle en nous. Alors peut arriver ce que Jacques a déjà dit. Il peut nous faire naître de nouveau par une parole de vérité pour que nous soyons des nouvelles créatures. Tu es chrétien, comme moi, et tu réalises peut-être alors dans une deuxième catégorie que même si la source a été changée dans ton cœur, il y a des luttes encore, il y a des difficultés. De temps en temps, il y a des déchets qui ont été déversés dans cette source pure. Le même remède, venons à Christ, confessons ça, ne minimisons pas cela et cherchons auprès de lui le secours. Et on va trouver dans l'Écriture beaucoup de secours. Je voudrais juste dire encore une petite chose, ensuite conclure. Je voudrais vous expliquer comment, n'est-ce pas? On vient de voir que la bouche, elle est animée par ce qu'il y a à l'intérieur. Si on veut enlever cette pollution, si on veut recevoir une source d'eau pure au fond du cœur qui nous permet de vivre pour Dieu, on a besoin de faire entrer alors en nous des bonnes choses, n'est-ce pas? Remarquez combien les yeux ou nos sens, ils font entrer des choses en nous et comment la langue, elle est l'expression de ce qu'il y a en nous pour ressortir et déverser des choses. Et je voudrais juste rapidement regarder avec vous en parcourant Jacques. Et là, si vous trouvez que c'est quelque chose de chouette, c'est une perle pour vous aider à vivre ça. Je vous informe que ce n'est pas de moi, mais du pasteur, un certain pasteur Sinclair Ferguson. Et j'ai trouvé ça juste brillant. Et je voudrais juste partager avec vous, regardez comment Jacques nous donne aussi des ressources, comment il nous dirige pour mettre des bonnes choses dans notre cœur, pour que petit à petit, par la grâce de Dieu, avec la puissance de son esprit, avec la maîtrise qu'il nous donne pour nous occuper de notre langue et de tout notre corps entier, en réalité, on puisse glorifier Dieu. Par exemple, versets 5 à 8, « Utilisons notre langue pour demander à Dieu la sagesse de parler et de faire cela sans être divisé, partagé dans nos motivations. » Versets 9 à 10 du chapitre 1, « Utilisons la langue pour ne pas pour nous vanter seulement dans l'exaltation, la glorification que nous avons en Christ et notre humiliation dans ce monde. » Regardons et le verset 13 du chapitre 1 toujours. « Soyons résolus à mettre comme un garde, un gardien au-dessus de notre bouche. » Chapitre 1, verset 19, « Soyons rapide à écouter, lent à parler. » Parfois, on dit des choses mauvaises, il y a des mauvaises choses qui sortent de notre bouche. Une des choses qu'on peut faire, c'est de parler alors pour dire des bonnes choses. Mais n'oublions pas aussi, des fois, c'est juste bien de se taire, de ne pas parler. Des fois, c'est mieux comme ça. Des fois, c'est servir Christ et glorifier Dieu. Et c'est le faire par la foi et la puissance de l'esprit, des fois, de se taire. Regardons chapitre 2, versets 1 à 4. « Apprenons dans l'Évangile à savoir parler à la fois aux pauvres et aux riches. Apprenons, chapitre 2, verset 12, à parler en étant conscient du jugement final qui vient. Chapitre 2, versets 15 et 16. Apprenons à ne pas utiliser nos mots pour détruire, pour mépriser ou pour désespérer quelqu'un. Et en fait, vous pouvez lire tout au long de l'épître de Jacques. Il y a plein de manières dont Jacques nous dirige pour faire un bon usage de notre langue. Et donc, il faut qu'on nourrisse notre pensée. C'est là que je veux en venir. Nourrissons notre pensée de l'Évangile, nourrissons notre pensée de la parole de Dieu pour que ce qui ressorte alors, après, de notre cœur, soit tellement imprégné par cela que nos paroles vont être pleines de grâce, pleines de bonté. Pour conclure, je voudrais rappeler en fait une partie de notre confession de foi. Et comme j'ai un peu modifié mon organisation, je vais retrouver ça, voilà. Article 8, de ce que nous avons accepté ensemble. Si vous êtes membre de l'Église, normalement vous avez signé ou vous avez lu ce papier, vous avez dit, voilà, en devenant membre de l'Église ici à Carillon, je suis d'accord avec ça. Article 8 de notre confession de foi, il est nécessaire de maintenir la pureté de l'Église en conformité avec la parole de Dieu, dans la doctrine et dans les aspects pratiques de la vie de l'Église locale. Nous croyons que chaque membre du corps du Christ participe individuellement à cette pureté de l'Église par ses choix, ses paroles et ses actes, en reconnaissant que c'est le Saint-Esprit qui donne le pouvoir de vivre en accord avec la volonté de Dieu. Ouf qu'on a rajouté la fin, n'est-ce pas? Sinon, c'était juste une loi, on aurait accepté de se mettre sous une loi. Mais reconnaissons que c'est le Saint-Esprit qui nous fait regarder à Christ et qui nous transforme à l'image de ce Seigneur, de Jésus-Christ, pour garder individuellement et collectivement la pureté de l'Église aussi dans nos paroles. J'étais venu comme chat avec mon accent de Schnorr. Vous aurez dit, ah, celui-là, il n'est pas du Vaucluse. Il n'est pas de la région. Il y a un petit accent qui te fait reconnaître, mon ami. Ne serait-ce pas magnifique que dans Cavaillon, dans le Luberon, le Mont de Vaucluse, dans même ceux qui sont de l'autre côté de la Durance, les Bouches-du-Rhône, que l'Église de Cavaillon se fasse reconnaître, que les chrétiens que nous sommes, les chrétiens et les chrétiennes que nous sommes, se fassent reconnaître par un petit accent bizarre pour ceux de l'extérieur, un peu singulier. La manière dont tu parles, c'est pas comme ce que j'entends habituellement. Quel est cet accent chantant, agréable? D'où est-ce que ça vient? Je pensais à Steve et Lucie, dont on a beaucoup parlé hier, de ce projet qu'ils ont de nous rejoindre ici en France et qu'on partage avec eux. C'est pas que leur projet, d'accord, c'est un projet commun. J'espère que petit à petit, dans un sens, ils vont perdre leur accent. Ce droit, en fait, qu'ils ont, en quelque sorte, en tant que nés et citoyens du Royaume-Uni, ce droit à leur identité, en tant que Britanniques, que petit à petit, ils vont renoncer à ce droit-là de se démarquer des autres ici dans la région, par leur accent. Mais que jamais, ni eux, ni nous, on va perdre notre accent de l'Évangile dans tout ce qu'on dit. Qu'ils ne perdent jamais, eux comme nous, leur accent de citoyens du ciel, immigrés comme nous dans ce monde qui passe. Et que nous tous, ici, on fasse l'expérience, que des gens s'arrêtent pour nous demander... C'est quoi cet accent que vous avez dans vos paroles? Un accent de grâce, un accent de vérité. Dieu nous a créés avec cette langue. Il a créé pour un but, pour que cette langue le glorifie, pour que cette langue fasse du bien. Il y a un proverbe qui dit, n'est-ce pas, comme c'est doux comme du miel, une parole qui tombe à propos. Ça va se faire si nous visons la maturité en Christ. Ça va se faire si nous regardons à Christ, qui a accepté de prendre le langage des disciples, d'être celui qui écoute comme un disciple d'abord, et qui a apporté une parole de réconfort, de consolation, qui peut nous enseigner comment utiliser notre langue pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur alors soit notre aide. Amen.